Jésus vient de se faire baptiser. Il a reçu cette parole d'amour de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Et aussitôt après, on nous dit que l'Esprit le pousse au désert. Là, Jésus est tenté ou éprouvé par Satan pendant 40 jours. Les bêtes sauvages ne lui font pas de mal et il est avec les anges. Expérience bien mystérieuse que Jésus a dû vivre là. Les autres évangélistes, Matthieu et Luc, ont dû avoir une autre source documentaire car ils vont détailler 3 tentations que Jésus subit au désert. Alors j'aimerais m'arrêter sur cette notion de tentation et d'épreuve. Ce mot grec, donc, les deux mots traduisent le même mot grec, perasmos. Et ce mot, évidemment, résonne différemment pour nous si on entend le mot tentation ou si on entend le mot épreuve. On le trouve aussi, d'ailleurs, dans le Notre Père. Ça marche? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Il fonctionne, le micro? Bon, alors on va enlever les piles. On va changer les piles. C'est l'épreuve aussi, ça. De marcher. Voilà, donc je disais que ce mot de perasmos, de tentation ou d'épreuve, est aussi là dans le Notre Père. Quand on dit ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, on pourrait dire ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. L'épreuve, on en vit chacun. Dans notre vie, on peut dire que les malheurs de la vie nous éprouvent. Par exemple, si l'on est atteint par la maladie, si on est touché par la mort d'un proche, des difficultés familiales ou des relations conflictuelles sont une épreuve. C'est aussi un accident qui va bouleverser notre vie au quotidien, un enfant qui va mal. La vieillesse aussi est une épreuve, voir ses capacités et ses forces diminuer, voir sa liberté se réduire. Et c'est vrai que j'ai fait cette thématique à Lambrecht jeudi, et c'est vrai que cette notion d'épreuve a particulièrement parlé aux personnes résidentes dans cette maison de retraite. Chacun et chacune peut nommer pour lui-même les épreuves, ses propres épreuves, et dans notre vie en société, je me suis dit que les médias nous mettent à l'épreuve aussi en nous présentant toujours ce qui va mal. L'épreuve met à mal notre foi parce qu'elle nous fait nous replier sur nous-mêmes. Nous voudrions trouver une solution à nos problèmes, un soulagement à nos douleurs, nous nous concentrons alors sur nous-mêmes sans réussir à s'ouvrir aux autres et à leur consacrer de l'énergie. Souvent, l'épreuve a tendance à nous séparer de Dieu. Nous en trouvons un exemple dans la parabole de la graine semée, on le trouve ce récit dans Luc 8. Des graines sont semées sur toutes sortes de terres différentes et il y en a qui tombent sur les pierres. Et le texte nous dit que la plante pousse, mais elle se dessèche tout de suite. Et Jésus donne cette explication. La semence, c'est la parole de Dieu. Les personnes accueillent la parole avec joie, mais n'ont pas en eux de racines. Et dans une autre, et ils disent au moment de l'épreuve, ils abandonnent, ou bien ils abandonnent la foi au moment où l'épreuve surgit. Alors nous avons peut-être en tête des témoignages de gens, de personnes qui nous disent que, à partir d'une certaine épreuve, ils n'ont plus pu croire, ils ont abandonné la foi. Et peut-être que nous-mêmes, notre foi a vacillé au moment de certaines épreuves. Et c'est là que j'ai envie de dire que l'épreuve est une tentation, peut être en tout cas une tentation. La tentation de désespérer, de considérer Dieu comme responsable de mes malheurs, la tentation d'abandonner cette espérance, que malgré tout, il est là. M'éloigner de Dieu est une tentation. Mais en fait, malgré tout ce que je vis, ce que je vois ou ce que je ne vois pas, cela n'enlève rien au fait que Jésus est venu sur la terre. Il est venu apporter cette espérance. Il a souffert l'épreuve, lui aussi. Et il nous promet qu'il est là, vivant, à nos côtés, chaque jour. Alors, contrairement au récit de Matthieu et de Luc, qui raconte comment le diable essaye de séparer Jésus de Dieu, dans celui de Marc, on a l'impression, au contraire, que Jésus reste toujours dans la présence de Dieu. D'une part, comme dans les autres, c'est l'Esprit Saint qui le pousse au désert, donc l'Esprit Saint l'accompagne, il est avec lui. Ensuite, vous avez entendu qu'on parle de bêtes sauvages. C'est assez curieux. Les bêtes sauvages ne lui font aucun mal. Et en fait, cela évoque la promesse messianique qu'on trouve dans le prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 11. Il nous dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. » Cette parole du prophète parle de la promesse que Dieu donne au peuple pour l'encourager à espérer que des jours meilleurs arriveront. Alors, reprendre cette image avec Jésus montre que Dieu nous ferait entrer dans une nouvelle époque, une nouvelle ère, parce qu'avec Jésus, quelque chose entre dans le monde de l'ordre d'une espérance immuable. C'est après sa résurrection qu'on va reconnaître qu'il est le Messie attendu. Et puis, il y a un troisième élément qui parle d'une présence divine, celle des anges. Les anges qui le servent. En fait, dans ce récit, j'ai réalisé, on ne dit pas que Jésus jeûne. On ne dit pas qu'il a faim. Si des anges le servent, c'est au contraire pour qu'il ne manque de rien. Dieu prend soin de lui par les anges, comme il a pris soin du prophète Élie dans le désert, en le nourrissant par un ange, le récit qu'on a. Alors Jésus est tenté, mais on ne sait pas quelle est la teneur de cette tentation, de cette épreuve. Mais on peut dire que Jésus n'a pas été épargné. La tentation pose la question du mal. Nous avons vu que l'épreuve peut nous séparer de Dieu, sans doute une des plus grandes tentations qui puissent nous arriver. Dans la Genèse, au début, quand le serpent vient tenter la femme, il détourne les propos de Dieu pour faire croire aux humains qu'ils peuvent être comme des dieux, qu'ils peuvent égaler Dieu. Vous serez comme des dieux. Et c'est probablement pour faire écho à cette première tentation que Jésus aussi est tenté. Il va quand même avoir dans les mains une puissance extraordinaire, une puissance de guérison et même une puissance de résurrection qui ferait tourner la tête à n'importe qui. Est-ce que Jésus a été tenté d'aller plus loin que juste ce geste que Dieu peut-être lui a inspiré? Est-ce qu'il a été tenté de l'exploiter à son propre profit? Quand il est question de puissance, de pouvoir, ce mot de tentation nous parle davantage. Quel est mon pouvoir dans ce monde? Parce qu'on en a tous, même des petits. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour exister au détriment de l'autre? Comment suis-je tentée de me servir de mon pouvoir? Nous savons bien qu'il y a des personnes qui mettent leur pouvoir au service de la vie et d'autres au service de la mort. On en a malheureusement des exemples tous les jours, dans les médias, mais peut-être aussi parfois dans notre entourage. Récemment, nous avons été témoins des commémorations données en hommage à l'homme politique et juriste Robert Badinter. Un homme qui s'est battu pour que la vie soit respectée même la vie des criminels. La peine de mort a été abolie en France en 1981 contre la majorité de la population. Notre système politique a permis une avancée de civilisation et d'humanité. Et je me suis dit en lisant les journaux cette semaine, pourquoi l'être humain a-t-il tellement de difficultés à respecter l'humanité des autres? Pourquoi aujourd'hui dans les sondages, il y a encore, et ça m'a stupéfiée, il y a encore 51% de personnes pour le rétablissement de la peine de mort? Évidemment, il n'y a pas de secret, en particulier dans la droite radicale, l'extrême droite. Vouloir tuer celui qui me dérange, c'est vouloir être le plus fort. C'est montrer que ma décision pourrait emporter la vie d'un autre. C'est estimer que mon jugement sur le bien et mal est juste. Mais voilà, la première tentation dans le début de la Genèse est justement la tentation de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Alors évidemment, nous avons besoin de cette structure, de cette connaissance pour vivre en société, pour être éduqué quand on est petit. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Nous avons reçu un certain nombre de repères dans notre éducation. Mais devenu adulte, il est impératif d'exercer notre esprit critique sur les repères que nous avons reçus. Pour interroger ce qui est véritablement chemin de vie ou bien ce qui est chemin de mort, ce qui me donne des jugements pour exclure l'autre, pour vouloir leur disparition peut-être. J'ai pensé par exemple à ceux qui ont été élevés dans l'esclavage. Je me souviens de films qui racontent combien les Blancs utilisaient la Bible pour justifier l'esclavage. Et je me suis dit que ce soit du côté des esclaves ou du côté des propriétaires, cela a donné des acquis complètement faux par rapport aux relations humaines et à la vie qui n'a pas la même valeur. Et là, ma foi est déterminante pour m'ouvrir l'esprit, à une autre manière de penser. Les histoires de la Bible racontent ces difficultés de tous de choisir, de discerner ce qui est juste ou pas. Même Jacob a trompé son père. Donc on a plein d'histoires dans la Bible qui racontent ces difficultés-là. Et jusqu'au Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, on voit bien comment un homme, bien sous tout rapport, il le décrit bien dans ses épîtres, eh bien il s'est trompé. Et il s'est donné comme mission d'éradiquer le mal en persécutant d'autres personnes. Et l'exemple évidemment le plus fondamental pour nous, c'est l'histoire de Jésus, le Fils envoyé par Dieu. Les chefs religieux l'ont condamné à mort, pensant agir pour le bien et le respect de la religion. Alors en ce début de carême, apprenons l'humilité de ne pas savoir. Peut-être nous trompons-nous. Mais apprenons aussi à faire confiance. Parce que la nouveauté, c'est que cet esprit de Jésus qui a vécu sur la terre nous accompagne. Apprenons à traverser les épreuves avec lui, en les acceptant, en ne se déchargeant pas sur un autre bouc émissaire, Dieu ou quelqu'un d'autre. Le texte que nous avons entendu de Corinthiens qui utilise ce mot de tentation, je vous invite à le relire en mettant à la place le mot « épreuve ». Nous ne sommes pas tentés ou nous ne sommes pas éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Jésus s'est appuyé sur la déclaration d'amour de Dieu qu'il a reçue à son baptême. Et nous aussi, nous avons été baptisés et Dieu nous a aussi affirmé son amour dans notre baptême et tous les jours. C'est à nous de nous ouvrir à ça, de nous en souvenir. Pour traverser les épreuves avec patience, confiance, persévérance et espérance, surtout l'espérance. Parce que nous pouvons tout confier au Christ qui nous accompagne, nous pouvons simplement mettre notre main dans sa main quand nous sommes au milieu du gué ou au milieu du tunnel. Et puis nous pouvons recevoir la puissance de résurrection qui nous remet debout et nous envoie avec une énergie nouvelle vers nos frères et vers nos sœurs. Amen.